Primièrement, je tiens à remercier la Bigonnet pour cette invitation de venir ici à Foussin pour ce dimanche, d'être présente avec vous en fait pour la première fois et pour la première fois pour une messe ici depuis que Monseigneur Léonard était présent ici au début de cette communauté. Je vous félicite pour tout le progrès qui a été fait pendant ces dernières années. Et j'espère avoir l'opportunité de saluer chacun d'entre vous pendant la réception après la messe. Le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a pris et caché dans trois mesures de farine, jusque le tout soit levé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous arrivions à la fin de l'année liturgique. En fait, dimanche prochain est déjà le dernier, où on va se concentrer dans l'Évangile sur la fin du monde, sur le jugement du Christ qui va juger tous et mettre en fin définitive. Il va séparer les moutons des chèvres à droite et à gauche pour avoir son jugement définitif sur le monde et le royaume des cieux. Sera aussi que l'Église triomphale autour de l'agneau de Dieu en train de rendre cette gloire et cette louange pour toute éternité. Mais nous vivons dans une période de le royaume des cieux qui est différent, un temps où les moutons et les chèvres sont bien mélangés, que les zizanies, la mauvaise herbe et la bonne herbe sont bien mélangées. Et donc pas encore dans cette période claire et cette période qui sera éternelle. C'est pourquoi ce peut être étonnant déjà que n'empêche le fait qu'on prenne des dimanches après l'épiphanie, qu'on parle déjà pendant ces dimanches avant la fin des royaumes des cieux, et on a cette parabole, ce sujet qui vient le plus souvent dans la bouche de notre Seigneur, de parler de son royaume, un royaume qui a beaucoup d'aspects dans tous les paraboles. On sait par exemple par lui que le royaume des cieux est quelque chose parfois décrit comme intérieur, qui existe en nous, cette présence de la Sainte Trinité quand nous sommes dans un état de grâce. Nous le savons aussi que le royaume des cieux est aussi le fait des noces, c'est-à-dire au ciel, cet royaume définitif où on va fêter ce mariage entre le Sauveur et son Église. Mais ce dimanche, on a deux paraboles qui parlent plutôt de cette période actuelle dans laquelle on vit en tant que l'Église militante. Mais semble-t-il au moins au premier regard que ces deux paraboles sont pratiquement contradictoires. Premièrement, il y a la parabole de la sémence de la moutarde, de la petite parmi tout ce qu'il y a. Il y a cette graine de moutarde qui devient la plus grande. Autrement, on a aussi le levain qui est mis dans la pâte, qui reste toujours petit, n'empêche que tout ce qui est autour devienne grand et va lever. Les pères de l'Église voient dans ces deux paraboles deux aspects différents, surtout de l'Église. Premièrement, le premier parabole va nous parler de l'Église au premier siècle, celui qui était, qui est, mais qui a montré son côté divin dans le fait que c'était fondé par 12 ou 10 pêcheurs, des hommes très humbles et très saints, qui ont réussi que l'Église soit dans tout l'Empire romain et en fait dans tout le monde occidental. Cette grandeur de l'Église qui a commencé tout petit, qui a dominé, on peut dire dans une certaine manière, toute la société avec une grande voix dans tout ce qui a été décidé et tout le bien des hommes, qui nous a donné notre culture actuelle. Mais le deuxième parabole parle dans le sens opposé, de quelque chose de l'œuvre qui reste caché, qui est difficile à voir, mais qui a un effet qui est énorme. On peut voir plutôt l'aspect de l'Église qu'on connaît aujourd'hui, qui est malheureusement une église qui n'a pas beaucoup voix dans la société actuelle. On ne vit plus dans une Bruxelles d'il y a 200 ans, où à le moment que l'évêque a demandé que chacun doit jeûner, par exemple le mercredi, que les boucheries seront fermées automatiquement. On ne vit plus dans un sentiment que l'Église peut décider aussi les choses dans le domaine de la société. Cette fête était combattue par les papes au fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en encourageant surtout les fidèles de garder cette voix de l'Église dans l'idée publique des gens. Quand on lit par exemple les encycliques de Pie IX, de Léon XIII et de Saint Pie X, on voit bien les distances qu'on a prises depuis cette période, où on doit être en marche aussi dans la société. Ces papes qui ont parlé de ce rôle de l'Église, non seulement comme quelque chose qui était un droit, mais qui était un devoir pour l'Église. C'est-à-dire, entendre que sa constitution était laissée par notre Seigneur, elle a un rôle nécessaire de jouer dans la société. C'est saint Thomas qui nous explique dans des paroles qui sont très simples. Il nous dit premièrement que chaque société qui sera saine sera basée sur le droit naturel. Il n'y a aucune autre manière de voir une saine société. Or, malheureusement, par le péché originel, l'homme a du mal souvent de voir cette loi naturelle, et donc la nécessité de la révélation des 10 commandements, mais aussi de voir un magistère qui va nous enseigner et nous éclairer dans les points différents de cette loi naturelle et comment on doit l'appliquer dans notre société. Malheureusement, le plus de distance qu'on a de cette idée des siècles passés, le plus qu'on risque de perdre cette idée que l'Église a une vraie voix dans la société et a un vrai devoir aussi d'être cette levain qui est invisible mais qui a un effet finalement énorme sur tout ce qui est autour d'elle. On peut donc se lamenter que l'Église a perdu cette voix largement dans la société. Mais on doit se rendre compte que même n'empêche les causes dans l'Église et dans cet aspect qui est visible, ça commence premièrement avec nous-mêmes. En fait, les paroles de ce dimanche doivent nous encourager de trouver cette voie de l'Église dans la manière que nous agissons dans la société. Comme on l'a vu dans des siècles passés, c'est aussi vrai que les avocats, les médecins, les hommes politiques qui vont décider les lois dans l'avenir, ne vont pas venir dans cette église premièrement pour entendre l'habit donné de prêcher en chair. Ils vont être convertis premièrement par vous dans les bureaux, dans la manière que vous vivez votre vie, la manière que vous montrez un exemple, la manière que vous êtes capable ou non capable de présenter la raison pour laquelle croyez tout ce que l'Église enseigne. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'être catholique et de dire « Je fais ça parce que l'Église le demande et je suis obligé. » Vous êtes obligé en fait aujourd'hui de voir aussi les arguments qui sont derrière, d'être à l'école avec les hommes qui sont autour de vous et de dire « Je crois ça parce que ça c'est vrai et c'est bien pour la nature humaine et ça va me perfectionner. » Et vous aussi. On est là pour être le levain dans la société où nous nous trouvons dans notre devoir d'État. Il y a donc cette nécessité pour nous d'approfondir, surtout dans notre époque, notre foi catholique, de voir cette formation intellectuelle où on le tient, où on l'embrasse et on est prêt de le partager avec efficacité avec les autres, avec un monde qui a tellement soif et besoin de cette vérité. Finalement, on n'a pas seulement cet enseignement qui est nécessaire, on a aussi notre liturgie qui joue un rôle aussi de beaucoup de levain dans notre société. C'est les mots de Benoît XVI dans son livre sur la liturgie, où il dit le suivant qui est très frappant. Il dit pour avoir une saine société, il faut avoir une saine liturgie. Il ne dit pas pour avoir une église qui est saine, il faut avoir une liturgie qui est saine, mais pour avoir une société entière qui est saine, il faut avoir une liturgie qui est saine. Et son argumentation est assez facile. Il dit pour avoir une saine société, il faut que les gens dans cette société reconnaissent les vraies relations qui existent dans cette société. Si l'homme et femme, ma époux et épouse, ne comprend plus qu'est-ce que c'est le mariage, on va terminer avec une société qui croit que deux hommes ou trois femmes et un homme peuvent se marier plutôt qu'une famille qui est la base de toute la société. Si on ne comprend pas les différences et les relations entre le patron et l'ouvrier, on va terminer dans le communisme ou dans le libre marché qui met toujours en opposition les deux plutôt que les deux vont travailler d'aller envers le ciel. Si on ne comprend pas la relation entre père et fils et que les deux pensent qu'ils sont que des bons amis, on ne va pas avoir une bonne société. Or, Benoît XVI dit encore que la manière de comprendre toutes ces relations commence avec notre conception de notre relation primairement au bon Dieu. Toutes nos relations avec les autres sont définies primairement par cette relation. Or, encore, cette relation et notre compréhension de cette relation viennent ici à l'autel. De comprendre qu'on est tout petit devant le Créateur est la base de toute la société pour bien comprendre. Et beaucoup plus que nos enseignements, c'est la liturgie qui nous enseigne dans une manière réelle, une liturgie qui est formateur de notre mens, de notre esprit, en fait de toutes les autres relations, qui est tellement importante, cette liturgie qui est formateur. Je vous encourage donc avec l'Église et sa liturgie de ne pas perdre cet espoir dans une société qui semble de toujours va de bas envers le plus bas, mais plutôt de nous voyons comme du vrai levain, que l'Église nous donne les moyens qui sont nécessaires pour participer à le bien de notre société. Qu'on suive notre liturgie, notre chef qui est notre Seigneur, qu'on n'a pas peur de cette période qui est si difficile et qu'on prépare son venue finale qu'on va célébrer le dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.